Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Le pape François a invité les fidèles à prier pour la paix en Égypte. Son appel a été apprécié sur place par les chrétiens mais aussi par les musulmans. Mercredi, 600 personnes ont été tuées. Les violences se sont poursuivies ce vendredi, vendredi surnommé le jour de la colère par les frères musulmans. Un attentat au Liban coûte la vie à 22 personnes dans un fief du Hezbollah chiite. Les évêques maronites dénoncent le climat d'insécurité qui règne dans le pays. Monseigneur Samir Mazloum, vicaire émérite du patriarcat maronite, sera notre invité. Et puis enfin, bientôt, un timbre du Vatican à l'effigie de Raoul Folreau. Ce samedi, le Français aurait eu 110 ans. Nous parlons de son combat pour soigner les malades de la lèpre et pour en finir avec la peur que suscite cette maladie. Nous en parlons avec Yvon Pinson, président du mouvement pour la canonisation de l'apôtre des lépreux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en langue française de Radio Vatican. Nouvelle violence ce vendredi au Caire alors que les frères musulmans ont appelé à un jour de la colère pour protester contre la dispersion sanglante mercredi de leur rassemblement de soutien au président déchu Mohamed Morsi. Mercredi, près de 600 personnes ont péri dans tout le pays, essentiellement dans la dispersion du Caire. Le pays est sous état d'urgence, un couvre-feu nocturne a été imposé. Le gouvernement, qui jusqu'ici saluait la très grande retenue de la police, a par ailleurs durci le ton en autorisant jeudi les forces de l'ordre à ouvrir le feu sur les manifestants violents. Dans ce contexte, le pape a désiré assurer de sa prière toutes les victimes, tous leurs proches, les blessés, tous ceux qui souffrent en Égypte. Lors de l'Angélus récité à Castel Gandolfo pour la fête de l'Assomption, François a demandé aux fidèles de prier ensemble pour la paix, le dialogue, la réconciliation sur cette chère terre, c'est son expression. Un appel qui a trouvé un écho important en Égypte, au Caire, le père Rafi Grech et le porte-parole des évêques coptes catholiques.
Dès que le pape a fini son mot à l'Angélus, quelques minutes après, toutes les stations de télévision et aussi les websites des grands journaux d'Égypte ont mis cette déclaration en relief, comme si tout le monde voulait entendre le pape parler. C'est seulement chrétien, catholique, orthodoxe, et même les musulmans, parce que pour eux, le pape, c'est une personnalité très importante, une personnalité de paix et une personnalité qui est très près des gens qui sont dans le trouble. Alors, les catholiques étaient même fiers que le pape a tout de suite réagi et a fait une déclaration à la fête de la Vierge aussi. Parce que la Vierge en Égypte est vénérée des musulmans ainsi que les chrétiens.
La situation, malheureusement, est très grave, très troublée. Il y a beaucoup d'églises attaquées.
Jusqu'à hier, il y avait une quarantaine d'églises, dont 10 églises et monastères et couvents de religieux, religieuses catholiques.
Et dans un entretien accordé ce jeudi à France 24, le ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce extérieur a expliqué que les attaques contre les petits commerçants chrétiens coptes de Haute-Égypte ont été extrêmement sauvages. Ces commerçants ont tout perdu, a affirmé le ministre, lui-même chrétien copte. Mounir Fakhri Abdelnour n'a pas précisé s'il y a eu des morts ou des blessés dans ces attaques des frères musulmans. J'espère que ce qui se passe en Égypte ne sera pas interprété comme un conflit entre chrétiens et musulmans, a pour sa part affirmé le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, pour le révérend Olaf Fiske Tveit. Le seul chemin pour aller de l'avant en Égypte est la reconnaissance mutuelle de tous comme étant des citoyens égaux, partageant des responsabilités ainsi que l'autorité, acceptant la diversité d'opinions politiques et des croyances religieuses. Dans un communiqué, le luthérien a enfin appelé jeudi toutes les parties à la fin des violences, prier pour les victimes en Égypte. Et puis enfin, depuis Marseille, le président de la conférence des évêques de France, Mgr Pontier, a adressé un message au patriarche copte catholique d'Alexandrie. Apprenons les difficultés que traverse votre peuple, conscient des souffrances endurées par beaucoup d'Égyptiens. Je voudrais vous assurer de ma proximité et de la prière des catholiques de France. Je demande à Dieu qu'il vous garde dans l'espérance », a ainsi affirmé Mgr Pontier, l'archevêque de Marseille, à sa béatitude Ibrahim Isaac Sidrac, patriarche copte catholique d'Alexandrie. Le Liban, victime collatérale à nouveau du conflit syrien, un attentat à la voiture piégée a visé jeudi un quartier chiite de Beyrouth, faisant au moins 22 morts, plus de 325 blessés. C'est l'attentat le plus sanglant depuis 30 ans dans cette banlieue sud de la ville, l'un des fiefs du Hezbollah, un mouvement chiite qui combat aux côtés des troupes de Bachar el-Assad en Syrie. L'explosion a d'ailleurs été revendiquée par un groupuscule inconnu qui se réclame des rebelles syriens, tandis que l'état-major de l'armée syrienne libre condamne lui cet attentat criminel qui a visé des civils. Réuni la semaine dernière à Diman, le conseil des évêques maronites s'est lui inquiété à nouveau de la paralysie qui affecte les institutions constitutionnelles du Liban en raison justement des divisions verticales extrêmes de la classe politique. Au Liban, le gouvernement est démissionnaire depuis 4 mois et l'église maronite appelle de ses voeux la formation d'un nouveau gouvernement efficace capable d'assurer la stabilité au plan économique, social et de la sécurité. Monseigneur Samir Mazloum est le vicaire général émérite du Conseil des évêques maronites.
D'une part, il y a une insécurité presque totale, surtout le sol libanais. Insécurité qui est alimentée par la présence de plusieurs partis armés, qui est alimentée par la guerre en Syrie. Et évidemment, cela déteint sur la vie sociale, sur la vie politique et sur la vie économique du pays. Économiquement, cette année, nous n'avons pas eu de saison d'été. Le tourisme pour le Liban est une chose importante. Cette année, on n'a pas eu de touristes. Donc, c'est un manque à gagner très important pour le budget des familles et pour le budget de l'État libanais.
Avec la guerre en Syrie, il y a eu un afflux progressif mais massif de réfugiés syriens qui sont arrivés au Liban. Et là, bien sûr, vous soulignez le fait qu'il faille les aider, les accompagner, les accueillir. Mais vous expliquez aussi qu'il y a un problème tant sur le plan sécuritaire qu'économique.
Tout à fait. Vous savez que le nombre des réfugiés syriens et palestiniens qui sont venus dernièrement de la Syrie, pas des anciens qui sont là depuis 1948. Cela varie entre 1 300 000 et 1 500 000 sur une population de 4 millions. Il y a pratiquement le tiers de la population qui est composée d'étrangers, de Syriens, de Palestiniens qui ont fui la guerre là-bas. Sur le nombre, on dit qu'il y a un assez grand nombre de gens armés qui font partie justement de l'opposition en Syrie et qui ont pris la fuite là-bas, des régions où il y a eu des affrontements. Et donc, ceux-là étant ici, étant en relation avec des organisations palestiniennes qui peuvent à n'importe quel moment reprendre les armes et créer des problèmes au Liban, cela aussi est une cause très importante du malaise que vit la population libanaise. Le problème est que ces gens sont entrés au Liban, tous les points de frontière entre les deux pays, sans aucun contrôle. Personne ne sait où ils se trouvent, personne ne sait ce qu'ils font. Ça cause une très grande inquiétude. Par ailleurs, ils font une concurrence déloyale, malhonnête, à la main-d'œuvre libanaise, parce qu'ils viennent là demander à travailler. Ils travaillent à un salaire qui équivaut à la moitié au quart du salaire d'un Libanais. Et donc, les différentes sociétés ou les différents secteurs économiques qui ont besoin d'une main-d'œuvre prennent des Syriens pour travailler à la place des Libanais. Et cela cause aussi une classe de population libanaise qui est pauvre. Tous ces problèmes-là, ça fait trop à la fois pour le Libanais moyen, et ça crée trop d'inquiétude chez des responsables de l'Église, et ça devrait créer cette inquiétude chez les responsables politiques.
Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se saisissent pas du problème, du coup? Parce que ça fait quand même 2 ans que la guerre en Syrie a commencé.
Le gouvernement libanais, c'est un gouvernement démissionnaire. Il se cache derrière cela pour dire que je ne peux rien faire, je ne peux pas prendre de décisions importantes. Deuxièmement, la population libanaise est divisée par rapport à la guerre en Syrie. Dès le départ, on a remarqué justement le clivage entre les deux grands partis au Liban. Une partie qui a commencé à aider, à armer, à envoyer même des combattants pour aider l'opposition. Une autre partie se tient à côté du régime et prend parti à la guerre à côté du régime. Là aussi, ils n'arrivent pas à s'entendre pour trouver une solution aux problèmes causés au Liban par la guerre syrienne. Par ailleurs, il y a, je dirais, une très grande négligence, une fuite de responsabilité chez la classe politique qui n'ose pas ou qui ne veut pas ou qui n'arrive pas à trouver les moyens pour affronter ces problèmes-là et les résoudre.
En Syrie, le sort du père Dalolio reste, lui, incertain. On redoute le pire après des déclarations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui le déclarait mort à la suite de son enlèvement dans la ville de Raqqa par une branche locale d'Al-Qaïda qui combat contre Bachar el-Assad. Ce vendredi, la coalition syrienne, plateforme de l'opposition, a affirmé que le jésuite italien, très engagé donc en Syrie, était toujours en vie. Dans un communiqué, la coalition demande à ce que toutes les informations qui puissent identifier le lieu où le prêtre italien serait détenu soient rendues publiques. Le père Dalolio s'est rendu à Raqqa pour jouer le rôle de médiateur entre des djihadistes et des rebelles kurdes. Ce samedi 17 août, l'apôtre des lépreux, Raoul Folro, aurait eu 110 ans. La Cité du Vatican émettra un timbre à son effigie en novembre prochain pour lui rendre hommage. Retour sur la vie de ce Français extraordinaire avec Bernard de Cotigny.
Né à Nevers en 1903 dans une famille d'industriels, ce Français fut assez vite reconnu pour son talent de journaliste et de poète. À 17 ans, il publia son premier ouvrage, « Le livre d'amour », aujourd'hui traduit en 35 langues. Et sa vie fut un combat au nom de l'amour, pour soigner les lépreux et dénoncer la stigmatisation dont ils sont victimes. C'est dans les années 30, lors d'un voyage professionnel en Afrique, que Raoul Folro découvre la réalité des lépreux. Au même moment, il réalise un reportage sur Charles de Foucauld, 20 ans après sa mort. Il en reste saisi, impressionné, et commence avec sa femme Madeleine Boudou à parcourir le monde. Ils ont animé 1000 conférences pour parvenir à ouvrir Adzopé, une cité pour les lépreux en Côte d'Ivoire, mais leur combat est loin d'être fini. Ils souhaitent soigner les lépreux, mais également guérir les personnes saines de leur peur absurde que leur inspire la lèpre. C'est avec ce double objectif en tête que Raoul Folro parviendra à faire adopter par l'ONU en 1954 une journée mondiale dédiée aux lépreux. Communication et charisme, ces deux atouts, le Français les met également au service des pauvres contre le racisme. Il lance dans les années 60 une série d'initiatives comme la grève de l'égoïsme ou le Noël du père Foucault avant de s'éteindre à Paris en 1977.
Et ce samedi, à l'occasion des 110 ans de la naissance de Raoul Folro, de nombreuses initiatives sont organisées. On en parle avec Yvon Pinson, le président du mouvement pour la canonisation de Raoul et Madeleine Folro. Il est interrogé par Elisa Sartarelli.
Nous allons faire célébrer une messe à Autrente pour Madeleine et Raoul Folro le 17 août, car c'est ce jour-là qu'il est né. Et nous ferons aussi cette année, avec le cardinal Sarah, une messe au moment de sa mort. Il est mort en décembre 1977 et nous fêterons son anniversaire de mort avec le cardinal Sarah à Rome.
Qu'est-ce que vous pouvez dire de la cause de béatification de Raoul et Madeleine Folro?
Il y a un mouvement qui est l'acteur de la cause. C'est une expression qui est propre à l'Église. L'Église dit il faut créer un acteur. Eh bien, nous avons créé l'acteur de la cause et c'est le mouvement pour la canonisation de Raoul et Madeleine Folro. Et le cardinal de Paris est la personne qui va ouvrir la cause prochainement. La date n'est pas encore arrêtée. La cause n'est pas encore ouverte par le cardinal de Paris. Mais les choses avancent puisque le cardinal a déjà agréé, accepté le mouvement. Il a ensuite nommé le postulateur et le vice-postulateur. Et maintenant, il a sollicité l'avis de ses confrères évêques qui ont donné un avis favorable et il a consulté la Sacrée Congrégation pour les causes des saints qui a donné son nihil obstat pour la cause de Raoul et pour la cause de Madeleine. Donc il est important de savoir qu'il y a deux causes. Raoul et Madeleine Folro n'ont pas eu d'enfants. Ils ont été mariés longtemps, plus de 50 ans, mais ils n'ont jamais eu d'enfants. En revanche, les lépreux appelaient Raoul et Madeleine Folleraud papa Raoul et maman Madeleine. C'était donc des pères et des mères spirituels pour les malades. Et Raoul et Madeleine Folleraud, ensemble, ont embrassé des lépreux. Ils ont vaincu la peur de la contagion. Eh bien, eux, ils ont dit non, c'est peu contagieux et on peut les embrasser et considérer les malades de la lèpre comme des malades ordinaires et les soigner de la même façon. Et maintenant, nous soignons les lépreux, nous les soignons et nous les guérissons complètement.
Folleraud a dit qu'il y a trois types de lèpre, l'indifférence, l'égoïsme et l'injustice.
Et puis il a aussi dit la lâcheté et la pauvreté aussi. Il dit les lèpres, c'est-à-dire en fait les conséquences du péché des hommes. Ces maladies-là ne sont pas encore guéries. Et il faut qu'il y ait des Folleraud qui se lèvent, il faut des Folleraud qui parlent, il faut des Folleraud qui touchent le cœur des gens pour que les hommes changent d'attitude, aident les pauvres et fassent comme le Christ a fait, c'est-à-dire s'approcher, être le bon samaritain. Vous voyez, le bon samaritain, c'est celui qui s'approche du malade, qui n'a pas peur d'aller le voir. Les Folleraud ont fait cela. Et aujourd'hui, toutes les lèpres, ce sont les conséquences du péché. Eh bien, Folleraud nous donne le courage d'aller partout là où il y a le péché, d'apporter la fraternité.
Autre anniversaire célébré ce vendredi, cette fois, vendredi 16 août, par la famille salésienne. La congrégation fête la naissance il y a 198 ans de Don Giovanni Bosco, le grand éducateur et saint de Turin, dans le nord de l'Italie. Une messe a rassemblé des dizaines de salésiens ce vendredi sur le parvis de la basilique de Don Bosco, près d'Asti. Quel rôle pour les religieuses américaines aujourd'hui? Comment se positionner, par exemple, par rapport à la loi sur l'immigration en cours d'adoption? Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles 825 religieuses américaines ont débattu ces 5 derniers jours. À Orlando, aux États-Unis, les supérieures de la LCWR ont conclu ce vendredi leur assemblée générale. Elle fut aussi l'occasion de faire le point sur l'évaluation doctrinale publiée en avril 2012 par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Jeudi, après la messe de l'Assomption, les religieuses ont rencontré Mgr Peter Sartin, le délégué apostolique nommé par le Vatican pour suivre la réorganisation de la LCWR. La rencontre fut à huis clos, mais le prélat, à l'ouverture de l'Assemblée des supérieures américaines, s'est félicité du climat constructif et de la collaboration des religieuses. À New York, les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont réclamé à Michel Djotodia des progrès rapides pour appliquer les accords de transition, organiser des élections libres, transparentes et équitables en Centrafrique. Les pays membres du Conseil de sécurité se sont inquiétés de la recrudescence des violations des droits de l'homme, en particulier par des éléments de la CELECA qui commettent des meurtres, des viols. En rôle des enfants soldats, 100 000 enfants, selon l'organisation Save the Children. La crise en Centrafrique est une grave menace pour la région. Le Conseil de sécurité s'est d'ailleurs dit prêt à envisager toutes les options possibles pour stabiliser le pays. Et puis ce vendredi, l'association de défense des chrétiens Porte Ouverte rapporte que le président centrafricain de confession musulmane, comme d'ailleurs la grande majorité de la CELECA, eh bien Michel Djotodia aurait lui-même ordonné l'interpellation d'un pasteur éminent le 6 août dernier, renforçant ainsi les craintes des chrétiens. Le pasteur Nicolas Guéré-Koyamé a été incarcéré à la suite de déclarations anti-gouvernement. Lors d'un sermon prononcé le 4 août dans la capitale Bangui, le président de l'Alliance évangélique de République centrafricaine estimait ainsi que les Centrafricains étaient traités comme des esclaves par le pouvoir en place. Et puis enfin, en Afrique du Sud, la compagnie britannique Lundin, qui exploite la mine de platine de Marikana, a demandé pardon pour la mort des 34 mineurs tués l'an dernier lors d'une fusillade policière. « Nous ne remplacerons jamais vos êtres aimés et je dis que nous en sommes vraiment désolés », c'est ce qu'a déclaré le PDG du groupe devant les mineurs et leurs familles à l'occasion des cérémonies commémoratives de ce drame qui a eu lieu l'an dernier, en 2012. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle émission.